de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir, voici le journal. Nous commençons avec les titres. L'Indonésie a reçu une assistance médicale de plusieurs pays. La Chine produit 2 millions de kilomètres de batteries de voitures électriques. L'ambassade d'Indonésie à Islamabad encourage la coopération économique au milieu de la pandémie de COVID-19. En juillet, Disneyland ouvrira. Deux défis majeurs dus à la pandémie doivent être surmontés ensemble, a déclaré le vice-président indonésien. La tour Eiffel ouvrira au public le 25 juin. Voici le journal complet. L'Indonésie a reçu une assistance médicale de plusieurs pays pour faire face à l'épidémie de COVID-19. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, lors de transmettre un communiqué de presse en ligne du palais présidentiel de Jakarta, a déclaré jeudi que l'Indonésie avait reçu les fournitures médicales des premiers et deuxièmes paquets de la Chine. L'aide de la Chine comprenait plus d'un 1500 équipements de tests de polymérase chain reaction, ou PCR, 8000 masques médicaux, 1,3 million de masques chirurgicaux, 8000 équipements de protection individuelle et 50 ventilateurs portables. Pendant ce temps, l'Indonésie a reçu l'information. Les expéditions de ventilateurs en provenance des États-Unis pour la première phase devraient arriver au début de juillet. L'Indonésie a également reçu une aide du Japon acheminée par le biais de trois organisations internationales, à savoir l'Organisation asiatique de productivité, APO, une entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes, l'autonomisation des femmes et le programme des Nations Unies pour le développement, UNDP. D'après le dossier du ministère des Affaires étrangères, jusqu'au 10 juin 2020, l'Indonésie a collaboré avec 11 pays, 12 organisations internationales et 93 organisations non gouvernementales dans le but de répondre à la pandémie de COVID-19. Contemporary Amperex Technology Ltd ou CATL à Ningde en Chine est prête à produire des batteries de voitures électriques pouvant durer jusqu'à 16 ans ou 2 millions de kilomètres. La batterie vient d'être lancée, adopte une technologie qui peut effectuer des réparations automatiques pour prolonger la durée de vie et contrôler l'utilisation des ingrédients actifs au lithium. Par rapport aux batteries sur le marché aujourd'hui, qui ne peuvent durer que 8 ans ou de 150 000 kilomètres, les nouvelles batteries ont une durée de vie beaucoup plus longue et permettent de réduire les coûts. CATL a de l'expérience en technologie, mais les données techniques sont encore nécessaires pour déterminer si la batterie est effectivement faisable. Comme l'a déclaré Liu Yong de l'Association industrielle chinoise des ressources d'énergie, cité par Global Times jeudi. Selon lui, l'utilisation de ces batteries varie selon les conditions. Par exemple, la durée de vie des batteries peut être réduite à des températures plus basses. L'ambassade de la République d'Indonésie à Hanoï, au Vietnam, prévoit de rapatrier les citoyens indonésiens détenus dans ce pays au début de juillet 2020. L'ambassadeur d'Indonésie au Vietnam, Ibnu Hadi, lors d'une présentation au séminaire virtuel organisé par l'ambassade d'Indonésie à Hanoï, jeudi a déclaré qu'au cours des trois derniers mois, la concentration de l'ambassade d'Indonésie était d'assurer le rapatriement des Indonésiens détenus incapables de retourner en Indonésie. Il expliquait la possibilité pour l'ambassade d'Indonésie à Hanoï de louer un avion appartenant à une compagnie aérienne vietnamienne, Vietjet Airlines, pour rapatrier les citoyens indonésiens dans leur pays d'origine. La raison en est que jusqu'à présent, le gouvernement vietnamien n'a pas autorisé les services de vol internationaux à opérer. L'ambassade d'Indonésie à Islamabad continue de chercher des occasions d'encroiser une coopération économique et commerciale accrue entre l'Indonésie et le Pakistan au milieu de la pandémie de COVID-19. C'est la déclaration écrite de l'ambassade d'Indonésie reçue à Jakarta jeudi. L'ambassade d'Indonésie à Islamabad a lancé une réunion d'affaires virtuelle en invitant la direction de la Chambre de commerce et d'industrie de Rawalpindi, RWCI, le comité permanent de la Chambre de commerce et d'industrie UKADIN d'Indonésie pour le Moyen-Orient, KT3 et l'OCI, ainsi que des professionnels indonésiens des PME qui se sont réunis mercredi. L'ambassadeur d'Indonésie au Pakistan, Iwan Suyudi Amri, a déclaré que cette réunion d'affaires virtuelle était un effort de l'Indonésie à favoriser toujours et renforcer les relations entre les hommes d'affaires indonésiens et pakistanais qui étaient bien établies. Après avoir été fermé à la mi-mars en raison de la pandémie de COVID-19, Disneyland en Californie a annoncé sa réouverture à partir du 11 juillet 2020 avec une capacité très limitée et des règles strictes. Disney, dans un communiqué publié par Reuters jeudi, a déclaré qu'il n'y avait aucun personnage de dire bonjour et de rencontrer. Le personnage sera dans le parc d'une nouvelle manière pour divertir les visiteurs. Cette ouverture fait suite à la réouverture réussie de Shanghai Disneyland le mois dernier et suit le même calendrier de redémarrage de Disney World en Floride qui a reçu l'approbation du gouvernement. Le vice-président Maruf Amin a déclaré que le gouvernement actuel doit relever simultanément deux défis majeurs, à savoir le traitement des cas de COVID-19 et le potentiel de ralentissement économique comme impact de la pandémie. Désormais, nous ne pouvons pas seulement prioriser la gestion de COVID-19 sans également prendre des contre-mesures économiques. C'est ce qu'a affirmé le vice-président Maruf Amin lors de l'ouverture de la réunion de coordination nationale de la Commission indonésienne de protection de l'enfance, qui a été retransmise en direct sur les réseaux sociaux depuis Jakarta jeudi. Il a dit que les conditions économiques étaient également des choses importantes à prêter attention au gouvernement actuel. S'il n'est pas traité immédiatement dès le début, les problèmes économiques peuvent s'aggraver et avoir un impact sur la crise économique. L'une des façons d'améliorer les conditions économiques est d'augmenter la productivité. Ainsi, pour cette raison, le gouvernement a commencé à mettre en œuvre une politique de la période de transition des restrictions sociales à grande échelle vers une nouvelle normalité. La Tour Eiffel en France rouvrira au public le 25 juin après 3 mois de fermeture en raison de la pandémie de COVID-19. Mais la tour ne peut être visitée que par les personnes âgées de 11 ans et plus. Le nombre de visiteurs sera limité et le port du masque obligatoire. Le nombre de visiteurs sera limité sur le parvis et dans les étages et les montées se feront par l'escalier S ou pilier S et les descentes par l'escalier Ouest ou pilier Ouest. Le site officiel de la Tour Eiffel, cité par rri.co.id jeudi, précise que la date de réouverture de la billetterie en ligne sera immédiatement communiquée. Le sommet reste fermé pour le moment, car l'ascenseur qui emmène les visiteurs du deuxième étage au sommet en plus petit et la distance physique est difficile à mettre en œuvre. On estime que l'enseignement rouvrira au cours de l'été. Serge Ritor, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Chers amis longtemps, après le journal, comme d'habitude, nous vous présentons le commentaire et pour le titre, restez à appliquer le confinement ou desserrer le confinement. Après 3 mois de confinement strict, plusieurs pays de l'Asie ont commencé à desserrer l'isolement pour empêcher la propagation du virus corona. La Malaisie a commencé à rouvrir presque toutes ses activités économiques et sociales mercredi, après avoir mis en œuvre une politique de confinement connue sous le nom de Malaysia Movement Control Order ou MCO pendant près de 3 mois. L'interdiction des vols et de voyages intérieurs a également été levée. L'activité au terminal d'intégration bandar Tasik Selatan à Kuala Lumpur serait lentement revenue à la normale. Tandis que la Thaïlande prévoit actuellement de lever plus de restrictions liées à COVID-19 dans le secteur des affaires. Cette politique a été prise après qu'il a été signalé qu'il n'y avait eu aucune transmission locale dans le pays au cours des 16 derniers jours. Le porte-parole du Centre thaïlandais d'administration des situations de COVID-19, Tawesin Visanuyotin, a déclaré qu'il tiendrait une réunion pour discuter du plan ce vendredi. La révocation des restrictions devrait entrer en vigueur le 15 juin. Au cours de cette phase, les écoles, les restaurants, les concerts, les parcs d'attractions et les terrains de jeu ainsi que les installations sportives de plein air ont été autorisés à rouvrir en appliquant des protocoles de santé. Cependant, la levée de cette limitation ne s'applique pas encore aux boîtes de nuit. Il a été noté que plusieurs pays avaient décidé que l'assouplissement au milieu du nombre de personnes infectées par la COVID-19 n'avait pas encore diminué. En fait, il y avait encore une augmentation. Par exemple, ce qui s'est passé au Pakistan, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a appelé le Pakistan à mettre en œuvre le confinement après que le nombre de cas positifs de COVID-19 dans le pays d'Asie du Sud a considérablement augmenté. Il y a eu au moins 5000 cas positifs signalés au Pakistan au cours des dernières 24 heures, le plus élevé parmi les pays voisins. Cela s'est produit après que le gouvernement pakistanais a annoncé l'assouplissement du confinement. Le premier ministre du Pakistan, Imran Khan, a fermement refusé la politique de confinement, car cela peut baisser les conditions économiques du pays. En fait, Khan a demandé à 4 provinces du Pakistan qui appliquent toujours cette politique de la révoquer immédiatement. L'Inde mène également une politique similaire. Desserrer le confinement, même si le taux de distribution du virus de COVID-19 est encore assez élevé. Les centres commerciaux, les hôtels, les restaurants et les lieux de culte en Inde sont rouverts le 8 juin 2020, marquant la fin de la première phase du confinement qui a commencé le 20 mars 2020. Cependant, les zones où le nombre de cas de virus corona est élevé doivent subir une deuxième phase de confinement jusqu'au 30 juin 2020. Mumbai et Delhi sont des villes où le cas de COVID-19 est toujours élevé. Plus tard, il a été signalé qu'après plusieurs jours de desserrage du confinement, l'Inde a décidé de fermer à nouveau le lieu de culte, craignant que le nombre de propagation de COVID-19 augmente. Une équipe de recherche de l'University College London, en collaboration avec China Tsinghua University, a créé un modèle pour prévoir l'impact de l'assouplissement du confinement dans divers pays. On a trouvé qu'un confinement serré pendant 3 mois aurait un impact négatif sur l'économie. Cependant, l'assouplissement du confinement rendra la manipulation de COVID-19 plus lente qu'auparavant. Alors, quel choix ferez-vous? Bien sûr, cela dépend des gouvernements de chaque pays. En fait, chaque pays a des situations et des conditions différentes et ce sont eux seuls qui connaissent la chose la plus urgente à faire en ce moment. Serge Ritter, c'est le commentaire pour ce soir.
Le 12 juin 1964, l'Afrique du Sud a condamné Nelson Mandela à la prison à vie. Le chef du groupe de lutte anti-apartheid en Afrique du Sud, Nelson Mandela, a été condamné le 12 juin 1964 à la prison à vie par un juge de la ville Pretoria. Mandela a été reconnu coupable d'avoir saboté le gouvernement à l'époque. Outre Mandela, sept combattants anti-apartheid ont également été condamnés à la prison à vie. Mandela a été envoyé à la prison de l'île Robben au large des côtes de l'Afrique du Sud. En 1982, le gouvernement a transféré Mandela sur le continent. Ce transfert a été conformé aux protestations de nombreuses personnes contre le régime d'apartheid dans le pays. Après presque 27 ans de détention à l'île Robben, Mandela a finalement été libéré en 1990. Le 12 juin 1990, les premières élections libres ont eu lieu en Algérie. Les premières élections libres ont eu lieu en Algérie et les résultats de leur calcul, le Front algérien islamique, ou communément appelé le Front islamique du Salut, FIS, a remporté un vote considérable. Le FIS a contrôlé plus de 54% du total des suffrages exprimés, alors que le parti au pouvoir, le Front de Libération Nationale FLN, n'a reçu que pas moins de 28%. Avec cette victoire, le parti FIS a le droit de contrôler et d'obtenir les privilèges dans la plupart des autorités de plusieurs villes ainsi que sur et au pouvoir. Mais la victoire a été annulée par les autorités soutenues par l'armée. À la suite de l'annulation, l'Algérie a été frappée par des émeutes et des violences qui ont fait de nombreuses victimes. Le 12 juin 1991, Boris Eltsine a été élu président de la Russie. Après que l'Union soviétique a éclaté et changé son nom en Russie, le pays est devenu un pays qui n'était pas pris en compte et ignoré par le pays du monde, en particulier les pays occidentaux. Après que le soviétique a changé son nom en Russie, Boris Eltsine a été élu président de la Russie lors d'élections directes le 12 juin 1991 avec 57% des voix. Eltsine a accédé au trône avec une vague de grand espoir de réformes politiques et de déception face au régime communiste. Il a immédiatement décidé de mener des réformes économiques. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Berkilauan indah.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était belle la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Chers amis de l'antenne, nous continuons notre programme avec mon Indonésie ayant pour le titre « Le secteur de l'industrie manufacturière prêt à entrer dans une nouvelle normalité ». Le ministère de l'Industrie se coordonne activement avec les gouvernements locaux pour surveiller conjointement les activités du secteur industriel au milieu des conditions de la pandémie de COVID-19. Le directeur général de la résilience de la région et de l'accès de l'industrie internationale, Dodi Widodo, dimanche 7 juin, a déclaré que cette surveillance visait à maintenir les rouages de l'économie et à assurer que l'entreprise se conforme au protocole de santé. Dodi Widodo a déclaré que le gouvernement régional avait un rôle important dans la prévention et le contrôle de COVID-19, y compris ceux situés dans des entreprises industrielles ou des zones industrielles. Il a affirmé que le secteur de l'industrie manufacturière est prêt à entrer dans une nouvelle normalité pour restaurer l'économie nationale. De plus, l'industrie manufacturière est un secteur qui devient l'un des principaux moteurs de la croissance économique. Le ministère de l'Industrie a noté que le secteur industriel était toujours le plus grand contributeur à la structure du produit intérieur brut national de 19,98% au premier trimestre 2020. Les activités industrielles exercent un large effet multiplicateur sur l'économie, entre autres à travers une augmentation de la valeur ajoutée des matières premières, des recettes en devises provenant des exportations et des main-d'œuvre. Cela est conforme aux règles contenues dans la lettre circulaire du ministre de l'Industrie numéro 4 de 2020 concernant la mise en œuvre des opérations de l'usine pendant la période d'urgence de santé publique de COVID-19. Par conséquent, afin de prévenir la propagation du virus corona, les entreprises industrielles qui ont obtenu des licences d'exploitation sont tenues de mettre en œuvre des protocoles de santé pour tous les employés, tels que le maintien de la distance, le port de masque et une vie propre et saine. Dodi Widodo a déclaré que pendant la pandémie de COVID-19, les sociétés industrielles ou les zones industrielles qui fonctionnent doivent avoir un permis d'exploitation et de mobilité pour les activités industrielles ou IOMKI, qui est stipulé dans la lettre circulaire du ministre de l'Industrie numéro 7 de 2020. Il a déclaré que le ministère de l'Industrie continue de prendre des mesures de synergie avec toutes les parties prenantes concernées afin que le secteur industriel puisse fonctionner conformément à la mise en œuvre du protocole de santé. La collaboration implique les gouvernements locaux pour former une équipe de surveillance de la mise en œuvre du IOMKI. Les tâches de l'équipe de surveillance comprennent entre autres la coordination avec les gouvernements locaux, la vérification des données et des informations du permis d'exploitation et de mobilité des activités industrielles ou IOMKI. En outre, l'équipe de surveillance supervise également la mise en œuvre du IOMKI directement ou par voie électronique, recommandant la révocation du IOMKI au ministre de l'Industrie et évaluant les résultats de la supervision concernant la mise en œuvre du IOMKI. Serge Ritter, c'était Mon Indonésie pour ce soir.
Apa tersimpan atas makna cinta, satu kata hati yang tak bisa memilih. Mengapa kita bersama, tak ku mengerti.
Apa tersimpan atas makna cinta, mampukah kita hapuskan angan-angan. Mampu ku nanti, satu tak pasti.
de Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français. Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Chers amis, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter les magazines culturels. Bonne écoute!
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le magazine culturel intitulé La Maison Ulu, située dans la province de Sumatra du Sud. Rumah Ulu, ou la Maison Ulu, est une maison traditionnelle à l'amont de la rivière Musi au sud de Sumatra. Le nom de Ulu vient d'un mot Uluan qui signifie village. Uluan est également appelé de la population locale qui vit à l'amont de la rivière Musi. Toutes les parties de la maison sont faites de bois qui se trouve au bas de la maison, soutenu par un tronc d'arbre unglen, parce qu'on pense que l'arbre peut survivre jusqu'à des centaines d'années. En plus d'être durable, la maison Ulu est également résistante aux tremblements de terre. La conception de la structure de la fondation de la maison sur pilotis d'Ulu est une clé qui permet à cette maison de ne pas s'effondrer facilement lors d'un tremblement de terre. Son poteau est mis sur le tas de pierres, de sorte que la pierre fonctionne comme une roue, et s'il y a un tremblement de terre, la maison ne fait que trembler et ne s'effondre pas. La construction de la maison Ulu doit suivre certaines règles qui ont été convenues. Le bâtiment doit faire face à l'avant de la ligne d'écoulement de l'eau pour que la maison qui soit construite puisse être libre des inondations qui viennent soudainement. En outre, la construction de la maison doit suivre le système Ulu-Ulak, à savoir si la terre pour construire une maison est encore large et a le projet de construire une autre maison Ulu, de sorte que la construction de la maison doit être tenue de la partie la plus en amont. Le système Ulu-Ulak n'est pas seulement la régulation du développement de la maison, mais aussi la régulation de la place socialement. La maison en amont ou en avant est pour ceux qui sont plus âgés dans la ligne de la famille, ainsi que suite jusqu'à maison la plus en aval qui est occupée par les plus jeunes descendantes. Ce système s'applique également dans la division de l'espace dans la maison. La maison Ulu se compose de trois parties, à savoir la pièce de devant, le salon et la pièce arrière. Les trois parties sont divisées en plusieurs parties telles que garang ou lintut, haluan et kakudan, sal gedongan ou ambin et la cuisine. Garang ou lintut est une pièce qui fonctionne de bavarder les propriétaires de la maison dans l'après-midi après avoir fait le travail routinier. tandis kehaluan e kakudan est une pièce spéciale qui est utilisée comme air de repos. Haluan est pour l'homme, tandis que kakudan est pour les femmes. Dans une autre partie, il y a gedongan ou ambin. Cette salle est au milieu de la maison, oulu, dont l'étage est plus élevé par rapport aux autres salles. Cet endroit est destiné à une personne considérée comme la plus âgée à la maison pour donner des conseils aux enfants et petits-enfants. Le conseil peut être aussi sous forme l'histoire avant de dormir. La maison Ulu est rare de trouver dans le sud de Sumatra. Si vous êtes intéressé à voir l'unicité de cette maison traditionnelle, vous pouvez visiter Musée Balaputra Dewa à Palembang, Sumatra du Sud. La forme de la maison traditionnelle peut être vue à l'arrière du musée et devient l'une des grandes collections du musée. Selon la note, la maison d'Ulu au musée a 200 ans et a été prise du village à Semkelat, sous communauté de Pangandonan, la régence de Ogan Komering, Ilir. Chers amis, c'est un magazine culturel de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Chers auditeurs et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Janji setia. ku cintamu selamanya.
Belum tentu, belum tentu aku cintamu selamanya. Belum tentu, belum tentu kau dan aku bahagia. Hanya waktu, hanya waktu tunjukkan siapa kita. Segala kelemahan kita karena belum tentu kita. Karena belum tentu kita. Karena belum tentu kita selamanya.
Serge Littard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute. Chers amis, on se rencontre encore dans la rubrique l'Indonésie en couleur. Cette fois, vous allez écouter l'Université Gajah Mada passe au 254e rang mondial et vous êtes toujours avec nous, la voix de l'Indonésie. Chers amis, l'Université Gajah Mada a réussi à placer le classement mondial 254e selon le classement des universités mondiales en 2021 par Quacarelli Simonde. Cette réussite est la plus élevée par rapport à d'autres universités en Indonésie. Quacarelli Simonde se classe en fonction de 6 critères principaux. Les 6 critères sont la réputation académique, la réputation des employés, l'intensité des publications de recherche, citation par faculté, le ratio du nombre d'étudiants et de professeurs, les professeurs internationaux et les étudiants internationaux. Serge Littard, Quacarelli Simonde classe les universités dans le monde depuis 2010. L'Université Gajah Mada continue d'augmenter régulièrement son classement. En 2015, UGM, ou bien l'Université Gajah Mada, était classée 551 jusqu'à 600 dans le monde. Des améliorations continuent d'être apporter afin qu'il y ait une augmentation significative au cours des 5 dernières années. Le succès a été classé au 254e rang des établissements d'enseignement supérieur mondiaux, tout en positionnant l'Université Gajah Mada comme le premier établissement d'enseignement supérieur en Indonésie. Le deuxième meilleur classement de l'Indonésie selon le classement Quacarelli Simonde a été occupé par l'Université Indonesia avec un record de 305e au monde. Après cela, il y a eu l'Institut de technologie de Bandung qui s'est classé 313e. Le chef du bureau d'assurance qualité de l'Université Gajah Mada, Indra Wijaya, a déclaré que cette réalisation était le résultat d'un travail acharné de toutes les parties. Les performances de l'enseignement supérieur dans divers domaines continueront d'être améliorées. Ce succès a en fait stimulé l'esprit pour obtenir de bien meilleurs résultats. Chers auditeurs, c'est tout la rubrique L'Indonésie en couleur pour ce soir. Intitulée L'Université Gajah Mada passe au 254e rang mondial. Merci beaucoup et à la prochaine fois. Chers amis, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Sans retard, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute. Bonjour à tous, vous écoutez toujours La Voix de l'Indonésie. Maintenant, je vais vous présenter le magazine musical. Cette fois, vous allez écouter la chanson de Aceh à la pointe nord de l'île de Sumatra, intitulée Buong Jumpa, chantée par Reza Regita. Sur Jolitaire, la chanson Buong Jumpa raconte la beauté des fleurs parfumées de Cempaka. Buong Jumpa à Aceh signifie fleur de Cempaka. Cette chanson a une signification importante dans la culture de la tribu Acehnaise, qui décrit l'esprit et la beauté de la province d'Aceh, qui est symbolisée par une fleur unique dans le sultanat d'Aceh. C'est Buong Jumpa. Bon, chers auditeurs, voici la chanson Buong Jumpa chantée par Reza Regita en version acoustique. Bonne écoute. Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Jumpa, buong jumpa, mega di Aceh. Buong tele, betelebe, indah lah.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @voiceindonesia, d'Instagram @voice.of.indonesia, joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube Voice Indonesia et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.